distance, des verstes, des milliers. On nous a dispersés, déliés, pour qu'on se tienne bien, transplantés, sur la terre à deux extrémités. Marina Tsvetaeva.
L'amour des mots. Marina Tsvetaeva et Boris Pasternak. Une correspondance russe. Extrait. 10 émissions d'Hélène Bleskine.
Entre 1922 et 1930, Marina Tsvetaeva exilée et Boris Pasternak resté en Russie se sont découverts mutuellement comme poètes à égalité de création. Ils ne parviendront à se voir qu'en 1935 à Paris. Mais cette rencontre se révélera comme une non-rencontre, selon les mots de Marina. 10e et dernière émission.
Le 27 juillet 1927. T'ai-je écrit quelque chose de satisfaisant en réponse à la franchise, à la grandeur et à la douceur de ta lettre, non pas dans la confiance que tu me fais, mais dans la justesse avec laquelle tu as su dire notre bagne. Pendant que je lisais ce que tu disais à propos de ta solitude, lecture et silence, ton désespoir d'ajouter des strophes à d'autres strophes, ta connaissance poétique de tout sans cocaïne réelle ou spirituelle, ton vide et l'indéfini de ton vol, ton insensibilité dans la vie, ma propre expérience faisait écho à la tienne. Résonnait en elle la même solitude, le même tourment que rien ne vient compenser. Il est juste une chose que tu ignores ou que tu ne dis pas, à savoir que, pour le moment, tu es plus jeune que ta maturité poétique. C'est l'unique raison pour laquelle ton vol te paraît indéfini. Marina, pardonne-moi si aujourd'hui je te laisse avec une feuille pratiquement vierge en guise de réponse. C'est la nuit, je suis mort de fatigue. Demain, à 6h, je vais en ville. Le 16 octobre 1927. Aujourd'hui, j'ai pris l'avion pour la première fois. Cela ne fait que 6 heures, et déjà ces 40 minutes me semblent un rêve. Je les restitue avec toute la rigueur du réalisme, sans l'espoir de faire passer la sensation, car je sais qu'elle n'a pas encore été partagée, éprouvée par tout le monde, donc elle reste inexprimable. C'est plutôt pour te la recommander que je la restitue, pour que tu acceptes de vivre un jour ce moment avec moi. Le vrombissement et le bourdonnement couvriront nos voix. Je ne te gênerai donc pas. Ce sera une solitude à deux imposée par l'altitude. Le ciel, le tonnerre et le fracas du vol, des lambeaux de nuages passant à toute allure, l'unité de l'air imprégnée de cet événement qui t'arrive à toi, une immensité de 100 verstes refermée sur elle-même, comme un rêve qui tourne autour d'une même chose. Moscou, une ville qui existait déjà il y a 1000 ans, avec ses gens et sa circulation, au fond de ce rêve, et l'aile à ta droite, immense, indescriptible, dans cet abîme gris, l'aile à laquelle tu t'adresses exclusivement et que tu déifies. Oh, cette immersion dans le monde, dans le jour, dans l'instant. Le plus extraordinaire, et j'apprendrai à en parler comme de la pluie, le plus extraordinaire est justement le rapport entre cette aile, ce terrible indigène du ciel, ce Robinson des nuages, et le reste du monde, la terre qui a existé avant, qui maintenant existe au-dessous et qui continuera d'exister.
Il émane de toi une telle onde immense de bonté que les bras m'en tombent. Le 22 octobre. Boris, hier ta lettre sur le vol. Que dire, Boris ? Eureka ! Je n'ai pas de mots pour t'exprimer toute ma joie, toute ma foi. Une nouvelle ère le second chant de ta poésie épique, Boris. Tu es l'éternel disciple des forces. Et donc voilà, à la rescousse, l'air, l'espace. Le 19 novembre 1927. Boris, ma nostalgie de la Russie va grandissant. Il y a une chose que je sais. Quelque chose s'est mis en marche. Mon désir est le désir d'au moins 5-6 personnes à la rencontre du mien. La venue d'Asia et maintenant la venue d'Asseyev et l'échange avec Gorky. Le mot « Russie » n'est qu'un signe. La chose a commencé à être. Ce sont les bulles de son tourbillon sous-marin. Laissons le temps faire le reste.
Le 5 janvier 1928. Ma chère Marina, je te félicite de tout mon cœur et de toute mon âme d'avoir terminé Phèdre. Et merci pour les vues de Meudon. Je ne connaissais pas la rue des Pierres, et sans elle, je serais resté avec l'idée fausse que Meudon est une petite ville récente et sans histoire. Dis-moi la vérité, Marina. Éprouve-t-on aussi, en me lisant, moi, le même sentiment qu'on a dès qu'on parcourt des yeux une page de toi, dès qu'on ouvre ton livre, d'être happé comme par l'effet d'une simple loi de la nature? Tu es surprenante. Tu es indéfinissable. Jamais je ne pourrai te faire comprendre ce que tu es dans l'action et dans l'expression. Quand tu parles de contexte, n'oublie pas ta propre texture, comme cela m'arrive à moi dans l'essentiel. En gros, je suis pareil à toi. Mais moi, je suis cet inconnu au sens mathématique du terme, dans l'esclavage prosaïque. Toi, dans une liberté prosaïque. Je te serre très fort dans mes bras. Que cette lettre soit notre secret absolu.
Boris, chéri, je veux t'avouer des choses effroyables dont nous ne sommes pas fautifs, comme dans tout ce qui n'est pas de notre fait. Pour la première fois de ma vie, l'ennui, l'évitement de l'écriture, une non-envie de retrouver mon cahier. De plus en plus souvent, je fuis à la recherche de prétextes, et je les trouve, naturellement, dans le superflu inutile. Pas la Russie, Boris, mais peut-être l'amour. Quand en amour je n'avais pas de chance, toujours, je prenais ma revanche. Mes écrits étaient ma revanche sur la personne. Je mijote, entourée d'étrangers et dans mon propre jus. C'est de moi que cela part, et en moi aussi que cela se jette, chute, une fontaine. Or, moi, je suis un cours d'eau. À Meudon, il n'y a pas de rivière, et à Meudon, je ne suis pas une rivière. On m'a stagné.
Mon ami très cher, si, dans les intervalles où je ne t'écris guère ou plus, tu me prends tout simplement en pitié, tu auras raison. Les causes en sont toujours des difficultés, des ennuis ou quelque chose de ce genre. Je n'aime pas le mot « neurasthénique ». Et j'ai confiance en ma santé mentale. Or, un rien. Surtout, un relent d'un passé éloigné, une hostilité bornée qui me vient de cette année 1924, où, réduite à néant, j'avais pris la décision d'abandonner la littérature, suffit à me rendre triste pendant des semaines, m'atteignant par ricochet aujourd'hui, en 1928. Je ne sais pas si tu t'en rends vraiment compte et si tu es capable d'imaginer les choses comme elles sont. Dans l'existence que je mène ici, je suis complètement dépaysé. Dans mon cœur et dans mon avenir, je suis complètement en dehors de ce qui devrait être mon milieu, mes joies, etc.
Le 4 mars 1928. Meudon. Depuis 1925, pas un seul vers. Boris, je me taris. Non pas en tant que poète, mais en tant qu'être, en tant que source d'amour.
Ma chérie, il y a longtemps que je n'ai pas reçu de lettres de toi. Après avoir reçu tes cadeaux, j'ai commencé à t'écrire et à deux reprises, j'ai déchiré la feuille. Ne me dis pas que j'ai fait mal. Cela aurait été encore plus pénible pour toi comme pour moi. Je titubais rien qu'en entendant ton nom. J'avais envie de finir dans tes bras. Je t'en supplie, écris-moi de nouveau dans l'esprit de notre correspondance, quand elle était la plus lucide et la plus sereine. Sinon tout me tombera des mains et je n'arriverai jamais à rien. Je t'embrasse sans fin. Car, à part toi, je ne connais plus personne ici. Je ne vois personne. Le 31 mars 1928. Chère Marina, je ne t'ai pas écrit depuis une éternité et mon état intérieur est à l'avenant. Pourtant, j'aurais dû te répondre immédiatement, surtout à propos de ce que tu as appelé la physiologie de la création. Crois-tu qu'il en est autrement pour moi? La sécheresse morale? Je crois en ta volonté. Tout repose sur elle. Tu es venu à cette sensation bien tard, au sens chronologique, et cela ne durera pas bien longtemps. Que cet état n'est pas définitif, on le voit à ce que tu ne le supportes pas. Sans cela, tu ne l'aurais même pas remarqué. Ta souffrance, ton envergure, ton feu. Tu connaîtras encore des joies insoupçonnées. Je te serre dans mes bras.
Boris. Nos lettres actuelles sont des lettres de gens en désespérance, résignés. D'abord, il y eut des délais, des noms de villes, au moins ça, en 1922-1925. Les échéances ont disparu de notre correspondance. Nous avons commencé à avoir honte. De quoi ? Simple, de mentir. Tu sais parfaitement, voyons, ce que je sais parfaitement. Avec les échéances a disparu l'urgence, pas le contraire, le besoin de l'autre, coûte que coûte. Nous n'attendons rien. Ô Boris, c'est ainsi. Nous vivons, tout bêtement. Et ça, nous, est en marge. Non, c'était devant, c'est devenu autour. Ça s'est dissous. Tu mets... Je te suis, devenu graduellement simplement un ami auquel je me plains. J'ai mal ? Lèche. Avant. J'ai mal ? Cautérise.
Le 12 mai 1929. Ma chérie, c'est déjà la troisième réponse à ta lettre. Dans les autres, je m'adressais à toi d'une autre façon. Mais tu sais que je t'aime et tu sais qui tu es. L'année dernière... Tu m'as parlé de sécheresse morale. Cela te faisait de la peine. À l'époque, je n'ai pas su te dire que seule la nouveauté de cette découverte était sécheresse, et non pas son objet. Que seul le caractère imprévu de cette observation qui nous prend au dépourvu était amer, et non pas ce que nous observons.
Meudon, le 31 décembre 1929. Boris, avec toi je redoute chaque mot. Voilà la raison de mon silence épistolaire. Car nous n'avons rien d'autre que les mots. Nous y sommes condamnés. Chacune de nos lettres est la dernière. Tantôt la dernière avant notre rencontre, tantôt la dernière pour toujours. Bonne année, Boris. Bonne année 30. Pour toi et moi, bonne année 7. Bonne année 30e du siècle et 7e de nous.
Le 5 novembre 1930. Chère Marina, ta traduction m'a bouleversée. C'est tout simplement génial, et il est facile de prévoir que cette contribution à la poésie française marquera son évolution. Mais l'aspect russe des choses est encore plus étonnant. Félicitations, félicitations, félicitations. Tu es brave entre les braves, tu as la terre sous les pieds, le ciel au-dessus de la tête, l'air autour de toi, tu es réel. Tu es une charge électrique permanente. Tout n'est pas tromperie. Tout n'est pas boniment. Ton Boris.
Après 1930, la correspondance se poursuit, mais les deux poètes imperceptiblement se séparent.
La profondeur de leurs lettres n'en reste pas moins vertigineuse jusqu'à la fin, en 1936, après qu'ils se soient vus brièvement lors du Congrès international des écrivains de 1935 à Paris, où Pasternak est sommé de se rendre sur ordre de Staline.
La neige. 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 Plus blanche que linge. Femme lige. Du sort. Blanche neige. Sortilège. Que suis-je et où vais-je? Sortirai-je vif de cette terre? Neuve? Neige. Plus blanche que page. Neuve neige. Plus blanche que rage. Slave. Rafale, rafale, aux mille pétales, aux mille coupoles, rafale la folle. Toi une, toi foule, toi mille, toi râle, rafale la saoule, rafale la pâle, débride, dételle, désole, détale, à grands coups de pelle, à grands coups de balle. Cavale de flammes, fatale mongole, rafale la femme, rafale, raffole.
Marina Tsvetaeva, 1923.
C'était L'amour des mots. Marina Tsvetaeva et Boris Pasternak, une correspondance russe. Extrait. 10 émissions d'Hélène Bleskine.
Avec Juliette Roudet, Cédric Lenoir et les voix de France Ducato et Félicien Jutner. Prise de son et mixage, Philippe Carminati. Assistance technique et montage, Dimitris Capolan. Assistante, Julie Béressi. Réalisation, Étienne Vallès.
Les poèmes de Marina Tsvetaeva sont traduits par F. Malray, Tentative de jalousie et autres poèmes, édition La Découverte, Le ciel brûle, poésie Gallimard. Bernard Kreise, Après la Russie, édition Rivage Poche, et Henri Deluy, L'offense lyrique et autres poèmes, édition Farago, Léo Cher. Les poèmes de Boris Pasternak sont traduits par Hélène Henry et Vardan Chimichkian aux éditions de la Pléiade. Marina Tsvetaeva, Boris Pasternak, correspondance 1922-1936, est paru aux éditions des Sirtes, traduit du russe par Evelyne Amourski et Luba Jurgenson. Les lettres à Pasternak de Marina Tsvetaeva sont parues aux éditions Clémence Hiver, traduites par Nadine Dubourvieux. Les musiques étaient de Boris Pasternak, Sergueï Prokofiev et Nikolaï Roslavets.